Prochainement, on a passé les fêtes. On va se remettre un petit peu dans le bain très rapidement. Vous allez voir que les sujets, on va les retrouver tout de suite, c'est les sujets qu'on a vus. Veiné. Page 100. On va reprendre le début du chapitre 34. En fait, on est arrivé à l'importance de l'étude de la Halakha. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'importance de l'étude de la Halakha. On s'était arrêté en bas de la page 102. Mais on va faire très rapidement depuis le début de la page 100. Sans question, s'il vous plaît. Juste, on va faire un petit rappel rapide. Alors, Veiné. Veiné. Modad Zot, il est connu. Chez Avot, NN à Merkava. Les patriarches sont comparés à un char. On avait donné l'exemple du char. C'est quoi le char? Le char, c'est celui que tu tournes le volant à droite, il tourne à droite. Tu tournes à gauche, il tourne à gauche. Il n'y a pas de réflexion. De la même façon, les patriarches, ils ont une telle abnégation à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y a même pas une réflexion, une fraction de seconde, se poser la question, est-ce que je vais faire ce que tu as demandé? Rien. Ah, votre NN à Merkava, les patriarches sont la Merkava. Chez Kol Yamehem Léolam, que toute leur vie, Léolam, sans cesse, Loïf Sikua Filusha Ahat, ils n'ont pas arrêté, ne serait-ce qu'un seul instant, mais les Kacher Data, Venishmatam, les Ribon Olamim, d'attacher leur esprit et leur âme au maître du monde. Nous, des petites gens comme nous, des petites simples personnes comme nous, prenez que nous, bon, on essaye de faire ce que Dieu veut, mais c'est pas automatique. Dieu nous demande de faire des choses. Des fois, on arrive à le faire. Des fois, on n'arrive pas à le faire. Mais quand on parle de gens comme les patriarches, il n'y a même pas de décision. C'est automatique. Ils font directement ce que Dieu veut. Mais les caches, donc, les roudeux de barère, ils ne s'arrêtent pas de faire ce que Kadosh Baruch Hu veut. Vers Harem Kolanvim. Après les patriarches, nous avons eu les prophètes. Kol Echad, Kefi, Madrigat, Nishmato, Lefi, Madrigat, Nishmato, Vaslagato. Chacun, selon le niveau de ses neshama et selon sa compréhension. On sait qu'on a eu de très grands prophètes. Et c'est ça un prophète. Un prophète, c'est une personne qui s'efface complètement au point de faire ce que Dieu veut. Et le plus grand prophète qu'on ait connu, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on témoigne sur Moshe Rabbeinu? Au Madrigat, Moshe Rabbeinu alav shalom. Sur Moshe Rabbeinu, on témoigne. Ia ola al kulana. Shiamru alav shrina medaberet mitor grono. Sur Moïse, on témoigne qu'il était à un tel niveau que la shrina parlait de sa gorge. C'est-à-dire, c'est pas seulement il s'est effacé devant Dieu. C'est beaucoup plus que ça. Dieu, il parle par sa bouche. Ça veut dire qu'il s'est complètement effacé. Il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de moi, Moshe Rabbeinu, qui dit ce que Dieu pense. C'est la bouche de Moshe qui exprime automatiquement ce que Dieu veut parler. De la même façon que moi, quand je veux parler, ma bouche dit ce que j'ai à dire. De la même façon, Moshe Rabbeinu était un petit peu le porte-parole de Dieu. Ce qui est extraordinaire. Ensuite, là, on va faire un petit peu, on va rajouter un peu quelque chose qu'on n'a pas expliqué la dernière fois. Quelque chose qui ressemble à ça, une abnégation similaire. Les Bnei Israël l'ont vécu, Bemahamad Arsinaï, dans l'événement du Mont Sinaï. Vous savez qu'on est maintenant dans la période qui est entre Pessah et Shavuot, qu'on appelle la période du Homer. Alors les gens, quand ils ont le mot Homer, pour eux, Homer est égal à deuil. Ça n'a rien à voir, le Homer et le deuil. Il y a un événement qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva, qui est concordé avec la période du Homer. Mais le Homer n'a rien à voir. Le Homer, c'est quelque chose qui se passait bien avant que les élèves de Rabbi Akiva existent. Le Homer est quelque chose qui était déjà depuis l'époque du désert. Et en fait, ça nous rappelle, il y a 49 jours du Homer, comme explique Rabbeinu Nissim, une des raisons, c'est 49 jours du Homer qui nous rappelle les 49 jours qu'il y avait entre Pessah et Shavuot. Shavuot est le 50e jour après le don de la Torah, après la sortie d'Égypte. Pourquoi 50 jours? Rabbeinu Nissim nous raconte que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils comptaient les jours à rebours. Vous savez, comme les enfants, quand on leur dit les grandes vacances, c'est dans 2 mois, comment ils comptent? 50, 49, 48, 47, dans 47 jours les vacances, dans 46 jours les vacances. Vous avez des enfants, certainement. Peut-être pas que les enfants. Alors, on est déjà mal, on vient de sortir de vacances, on parle déjà de vacances.
C'est bientôt.
C'est bientôt, bien sûr, c'est bientôt. C'est plus vite qu'on le pense, on est déjà en mai. Alors, en France, en mai, on travaille pas, en juin, on travaille moins, et c'est fini, juillet, c'est fini, voilà, c'est fini. L'année est terminée.
Attends, la semaine prochaine. Que le syndicat n'en parle le 1er mai.
Oui, c'est fini là.
Attends, le syndicat, ils ont que le 1er, c'est un dimanche.
Ah bah oui, ils sont pas contents.
Ils l'ont mis le vendredi, ils vont pas travailler mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La perte de la France, les voilà.
Et le 8, on aura le même problème. C'est un dimanche aussi, le 8. Et après le 11, et après, bon, enfin. Alors, donc ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est maintenant dans la période entre Pessah et Shavuot. C'est une période qui nous rappelle la soif que les Bnei Israël avaient pour recevoir la Torah. Puisque Dieu leur a annoncé le programme. Il leur a dit, quand on va sortir d'Égypte, 50 jours plus tard, comme ça il dit le Rav, 50 jours plus tard, vous recevrez la Torah. Ils étaient impatients de voir cette Torah. Et donc ils comptaient les jours. Et chaque jour, ils essayaient de se travailler, de se préparer, de se nettoyer intérieurement pour être prêts à recevoir cette fameuse Torah. Et c'est pour ça que nous aussi, on compte le Homer, et tous les jours, il y a une sphira spécifique qu'on compte. Une sphira, on rappelle une sphira. C'est-à-dire, chaque jour, ils se travaillaient sur un trait de caractère différent. Par exemple, aujourd'hui, c'était, donc le jour qui vient de passer, c'était le 9e jour du Homer. Et le trait de caractère sur lequel on se travaille, c'est Gvura Shebi Gvura, la discipline de la discipline. C'est-à-dire que travailler l'aspect de la discipline qui est en nous, qu'il y a des choses qu'il faut écarter, des choses pas bien qu'il faut écarter. Ce que je veux montrer par là, c'est que les Bnei Israël se sont préparés à ça. Quand ils sont arrivés au don de la Torah, ils ont nettoyé chaque aspect possible de leur être. Ils ont fait un nettoyage sommaire, mais ils l'ont fait. Au point que, il n'y avait plus rien, il n'y a plus de tâches. Ça veut dire, autant 49 jours plus tôt, ils étaient dans les 49 portes de l'impureté, autant, chaque jour de ces 49 jours, simultanément, au même moment, ils quittaient une porte de l'impureté, et grâce à ça, ils pouvaient acquérir une porte de la pureté. Parce que c'est donnant-donnant, c'est comme ça que ça se passe. 49 portes de l'impureté, 49 portes de la pureté. On quitte une porte de l'impureté, on prend une porte de la pureté. Donc vous imaginez que, quand ils arrivent au don de la Torah, 50e porte de la pureté, le chiffre 50, c'est un chiffre qu'il n'y a que Dieu qui peut donner. Que Dieu qui peut donner. Vous savez qu'en hébreu, la valeur numérique de cholé en hébreu, c'est voilà. La valeur numérique de 49. Cholé, c'est le malade. Valeur numérique de 49. Pourquoi? Parce que un tzaddik est appelé malade. Vous savez pourquoi? Parce que le niveau maximal auquel le tzaddik peut arriver, c'est quoi? C'est 49. 50, c'est Dieu qui te donne. Une fois que tu es arrivé à 49, là, Dieu, s'il veut, il te donne le 50.
Il l'a donné à Moïse.
D'accord? Il nous l'a donné à nous. D'accord? C'est bon, vous inquiétez pas.
Non, c'est Yves.
Le cinquantième niveau, Dieu nous l'a donné. Il nous l'a donné. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? A priori, au don de la Torah, on était tous au même niveau que Moshe Rabbeinu, que les patriarches. Un niveau d'abnégation absolue. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, on n'était pas prêt. Ça veut dire que on nous a mis en condition. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous donner un exemple qu'on donne chez les chassidim. Vous prenez quelqu'un, par exemple, tu dis, viens, on va aller chez un grand tzaddik, on va aller chez le rabbi. Tu le prépares, 2 mois de préparation, etc. Tu lui dis, arrête la télé, arrête les films, arrête les bêtises, arrête de regarder ci, arrête de regarder ça, etc. Tu le prépares à fond. À la fin, il arrive au bout de 2 mois, il est pris, il va chez le tzaddik, paf, il décolle. Tu dis, ça y est, c'est bon, il a tout gagné celui-là. Mamache, il a un niveau, comment il s'est devenu un tzaddik. Tout va bien. Le problème, c'est que le séjour se termine, il retourne chez lui à la maison, et qu'est-ce qui se passe? Il retombe. C'est exactement ce qui s'est passé avec nous. Quand on était au don de la Torah, on était catapulté, on était à un niveau comme les patriarches. On était à un niveau d'abnégation que Dieu, il dit, on fait. C'est même pas peut-être tu, peut-être non. Dieu, il a dit automatiquement, fais comme si que c'est déjà fait. Comme les Américains, vous savez, tu lui dis, il te manque quelque chose, tu lui dis, pour quand tu l'as besoin? Il te dit, pour hier. Ça veut dire, c'est déjà fait, quoi. Ou bien, un truc américain, quand, ça fait bien chez les Américains, ça. Quand tu dis, tu demandes, tu lui dis, quelqu'un te demande, tu dis, est-ce que tu peux me faire quelque chose? Tu lui dis, consider it as done. Considère que c'est déjà fait. Ça, c'est la classe. Et, bon, ça veut dire, je l'ai déjà fait, quoi. Ça veut dire, c'est sûr que je vais le faire. Hein? C'est considère que c'est déjà fait. Ça veut dire, tu peux enlever ça de ta tête, c'est réglé. Ben, au don de la Torah, on était tous à ce niveau-là. Un niveau d'abnégation absolue à Kadosh Baruch Hu, au point que ce que Dieu y demande, on le fait. C'est pour ça tout de suite, Dieu, même pas il a commencé à parler, avant même qu'il a annoncé le programme, on lui dit, Dieu, tout ce que tu dis, on fait, et après on comprendra. C'est du jamais vu pour des juifs, ça, on n'a jamais vu ça chez les juifs. D'ailleurs, il y a eu même une fois, comme ça, c'est pas un empereur, mais enfin, c'est une sorte de notable, qui est venu voir le maître Rava, et qui lui a dit, mais vous êtes fous les juifs. Vous êtes fous. Il dit, vous avez fait passer votre bouche avant vos oreilles. Ça veut dire, normalement, comment on fait? D'abord, on écoute. Après, on dit, j'accepte. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a dit, j'accepte. Après, on a dit, bon, maintenant, dis-moi ce que tu veux me vendre. C'est-à-dire, on a déjà acheté le produit avant même qu'il nous a montré. C'est fou. C'est du jamais vu, ça. Vous avez déjà vu un juif qui est comme ça?
Ou c'est un bon vendeur.
Ou bien, vraiment, il nous a mis en condition. Et bien, même Mâche, on était à ce niveau-là. Pendant le don de la Torah, on était à un niveau que tout ce que Dieu y dit, on dit oui. Mâche, comme les patriarches. Dieu, il dit blanc, blanc. Dieu, il dit noir, noir. Comme le char. Il tourne à droite, à gauche, à gauche. seulement, rag seulement, chez Lo Yachlou Lisbol. Ce qui s'est passé, donc on est maintenant donc rag chez Lo Yachlou Lisbol, donc on est à la troisième paragraphe de la page 101. Rag chez Lo Yachlou Lisbol. Le problème, c'est que les Bnei Israël n'ont pas réussi à supporter, leur corps n'a pas réussi à supporter ce grand dévoilement. Ça veut dire que peut-être leur âme a décollé, mais le corps ne suivait pas. Et quand le corps ne suit pas, forcément, à un moment ou un autre, ça explose. C'est comme un couple. Quand t'as un qui avance trop vite, même si à un moment, bon, par exemple, le mari, il avance trop vite, ça peut être le contraire aussi. Même si, bon, un, il se tait, etc., on avance, inévitablement, ça va exploser. C'est sûr, ça va exploser. Parce que c'est pas possible. Quand un, il monte, il tire, et l'autre, il reste encore en bas, ça explose. Pour ça, toujours, le Rav Azimov nous disait, faire attention quand les gens avancent dans la Torah, il faut toujours avancer en concordance, simultanément, ensemble. Alors, bien sûr, il peut y avoir des fois des petits écarts, mais il faut s'assurer qu'on est plutôt pas très loin l'un de l'autre. Ce qui s'est passé au don de la Torah, c'est que notre âme, ce que vivait notre âme, n'avait rien à voir avec ce que notre corps vivait. Notre âme était très très élevée, elle s'est élevée au point que tout ce que Dieu dit, on le fait. Notre corps n'était pas prêt pour ça. Le corps n'était pas prêt. C'est pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que l'effervescence du don de la Torah a baissé, et qu'on est retombé dans la vie de tous les jours, malheureusement, on est retombé. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passait avec, vous savez, avec Yitro et Moshe Rabbeinu. Puisqu'on a déjà ouvert la parenthèse, chaque fois qu'on en passe des nouveaux chidushim. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yitro? Yitro, il arrive, il dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, tu sais, il faut que tu délègues. Vous connaissez l'histoire? Il faut que tu délègues. Moshe Rabbeinu, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu qu'il faut déléguer. Il était seul à gérer un peuple entier. Il n'a pas compris qu'il doit déléguer, il ne délègue pas. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque les Juifs arrivaient devant Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il les élevait à un niveau tellement haut que les problèmes n'existaient plus. On pourrait donner un exemple. Imaginez par exemple un mari et une femme qui sont disputés. Scène de ménage. Bon, les temps sont montés, etc. C'est parti loin. Qui vont aller voir? Ils vont aller voir Moshe Rabbeinu. Ils arrivent devant, ils sont tellement éblouis, ils disent alors, qu'est-ce qui vous amène? Non, c'est bon.
Plus rien.
Il n'y a plus rien, parce qu'ils sont à un autre niveau. Ils sont à un niveau dans lequel ils disent, qu'est-ce qu'on va lui raconter? Il m'a dit si, je lui ai dit si. C'est des bêtises. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce monsieur et cette madame, ils vont rentrer chez eux. Et une fois que l'impact de Moshe Rabbeinu va baisser, eh ben, ils vont redevenir comme avant. Alors ça, c'est en fait, Moshe Rabbeinu, il dit, c'est pas grave. Moi, je les propulse au maximum, mais bon, après, c'est pas grave. Même sur autant, moi, je les propulse. Yitro lui a dit, ça marche pas comme ça. Yitro lui a dit, ça sert à rien de les propulser s'ils sont pas prêts pour ça. Parce qu'ils retombent après. Preux lui a dit, si tu veux que ça tienne durablement, que même quand tu n'es pas là, qu'il y a un système qui tourne, il faut déléguer. Dieu a été d'accord avec Yitro. Il a dit à Moshe Rabbeinu, il a demandé à Dieu, et Dieu lui a dit, ce que ton beau-père dit, il a raison, il faut faire. Ça veut dire que de là on voit qu'il faut avoir une concordance, il faut qu'il y ait une sorte de, enfin je sais pas comment dire, pas concordance. Concomitant, je sais pas comment on peut dire ça. Il faut qu'ils travaillent ensemble entre le corps et l'harmonie. Il faut travailler ensemble. Ce qui s'est passé au don de la Torah, notre corps n'était pas prêt pour ça. Vous allez me dire, Dieu ne le savait pas. Dieu le savait. Mais Dieu voulait nous montrer de quoi on était capable. Il sait très bien que quand on va redescendre, on va retomber. C'est comme les fêtes. Pendant les fêtes, on va monter. On sait très bien qu'après les fêtes, il y aura un lendemain. Et que malheureusement, ce lendemain, il ne sera pas aussi beau que pendant les fêtes. Mais ce n'est pas grave. Au moins, on voit où on peut arriver.
C'est presque impossible. Il y a un tel déficit du corps.
Oui, il y a un déficit énorme. Énorme.
On n'arrivera jamais à le rattraper. Enfin, ça sera très difficile.
On va voir. C'est ce qu'on va voir. Donc, en fait, ce qui s'est passé, troisième paragraphe, Rak Shelo Yerchou Lisbolk, Mamaraza Shakol Dibo Pachanishmatam. Comme on nous dit que sur chaque parole qu'ils ont entendue d'Akadash Baruch Hu, des 10 commandements, leur Neshama s'envolait. Ça veut dire que leur corps ne suivait pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui retient la Neshama ici-bas? C'est le corps. Rappelez-vous le fameux exemple dans chapitre 19 du Tanya. Exactement, la bougie. Donc, t'as une flamme. Lorsque la flamme est plus puissante que le combustible, qu'est-ce qui se passe? Le combustible n'arrive pas à retenir la flamme. C'est simple. Donc, ce qui se passait, c'est que la flamme était tellement forte que la flamme partait. Le combustible n'arrive pas à maintenir la flamme. Et donc, c'est pour ça, à chaque fois, Dieu, il devait refaire descendre. Il devait refaire descendre leur Neshama. Mais il n'était pas prêt pour ça. Chez où inyan bitul mitziut anal, ça veut dire que leur corps s'est annulé complètement. La reine, c'est pour ça, tout de suite après. Ça c'est un autre débat, mais bon. Tziva lahem la sot le mishkan. C'est pour ça que tout de suite après, Dieu leur dit, Miyad Omer Lahem, la Sot le Mishkan. Tout de suite après, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit de faire un Mishkan. On va expliquer plus tard. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, écoutez, vous n'êtes pas en état de gérer ça. Vous n'êtes pas en état d'avoir une telle abnégation. Vous n'êtes pas encore en état. Qui c'est qui peut être à ce niveau-là? Les patriarches. Oui, mais les patriarches, c'est les patriarches. Les prophètes. Les prophètes, c'est les prophètes. On va garder un endroit dans le monde qui va être comme ça. Un endroit dans le monde dans lequel c'est un endroit qui n'est pas limité par les limites de notre monde. Un endroit qui est au-delà des limites du temps et de l'espace. Un endroit dans le monde. Un endroit qui fait ce que Dieu dit, sans se poser de questions. C'est quoi cet endroit? C'est le Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est un endroit dans lequel Dieu se trouve sans aucune limite. Il n'est pas limité par le temps et l'espace. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas. C'est automatique. Tout ce que Dieu dit, ça se fait automatiquement. Ça veut dire que ce qui se passait chez les patriarches se passe dans cet endroit. Maintenant, malheureusement, le temple a été détruit. Alors certes, le Saint des Saints existe toujours. Ça veut dire que le Aaron, l'Arche Sainte, a été caché sous terre jusqu'aujourd'hui. Lorsque Moshé va venir, il va nous retrouver cette cachette jusqu'aujourd'hui. À tel point qu'il y a un Midrash qui dit, c'est Malak Marin qui dit, que si, ne serait-ce qu'un seul instant, le Aaron, l'Arche Sainte, cesserait d'exister, le monde ne tiendrait plus. Dans le monde, il doit avoir un endroit, au moins un endroit dans le monde, dans lequel on n'est pas limité par les limites du temps et de l'espace. Ça, c'est le Aaron, l'Arche Sainte, dans lequel il y a l'étape de la loi. Et dans l'étape de la loi, il y a toujours ce miracle que les lettres tiennent alors qu'au milieu, c'est vite. Bon. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, pour nous, le temple a été détruit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, quand on veut essayer de vivre ce que les patriarches ont vécu? On veut essayer de vivre un moment comme ça, vivre une abnégation absolue à Kadosh Baruch Hu, l'abnégation du char, que il dit à droite, je vais à droite, il dit à gauche, je vais à gauche. Comment on peut vivre ça aujourd'hui? Comment on peut réussir à vivre une telle abnégation à Kadosh Baruch Hu? Comment on peut s'écraser comme la matzah comme ça? Comment on peut réussir à être comme ça? Alors aujourd'hui que le Beit HaMikdash est détruit, la Gemara a dit, on s'est arrêté depuis le dernier cours, ou Mishecharav, Beit HaMikdash, je suis à la page 102, depuis que le Beit HaMikdash était détruit, en la Kadosh Baruch Hu be'olamo, et la Mishkan ou Machon le Shito Yichudo Yitbarech, et la Arba Amot Shel Halacha. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'étude de l'Halakha. Le Beit HaMikdash, le temple d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'étude de l'Halakha. C'est quoi l'Halakha? Vous savez qu'il y a plusieurs types d'études. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne supportent pas les cours de l'Halakha. Tu leur dis, viens un cours de Mishnah, de Gemara, de Chumash. Ils adorent. Ils adorent. C'est un kiff. Tu viens un cours de Chumash, et là, on développe. Commentaire un tel, commentaire un tel. Il y a tellement de commentateurs que tu trouveras forcément un commentateur qui dit ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a tellement de commentateurs. Comment tu veux un commentaire plutôt ésotérique, on va te le trouver. Plutôt pshat, on va te le trouver. Plutôt midrash, on va te le trouver. Tout ce que tu veux, on va te le trouver. Il y en a pour tous les goûts. Pareil, quand tu étudies la Gemara, c'est tellement vaste, tellement de sujets, tellement de commentateurs. Chaque partie de la Gemara, tu peux la comprendre de toutes les façons, tu peux la tourner en long, en large. Si vous savez le nombre de commentateurs sur une ligne de Gemara, comment on peut la commenter, la tourner dans tous les sens, c'est extraordinaire. J'ai déjà assisté plusieurs fois à celle à Yeshiva. Comment? Tu prenais une sugya, c'est-à-dire, on va dire, quelques lignes de Gemara. Un sujet. Tu vas voir ton Rosh Yeshiva. Tu vois comment il te l'explique. Ensuite, tu vois un autre Rosh Yeshiva à côté. Tu dis comment vous avez compris. Il te comprend le même sujet complètement différemment. Un autre mahalach. Une autre approche. Une autre façon de voir la chose. Complètement différente, au point que tu pourrais croire que c'est deux livres différents. Ça veut dire que la Torah a volontairement été faite d'une façon qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc c'est un kiff. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde.
C'est pas les Shivim Panim?
Exactement. Shivim Panim, la Torah. Et encore, il y a plus que ça même. Shivim Panim, Shivim Achor. Il y a 70 facettes, 70 façons. Et il y a des angles différents. C'est extraordinaire. Il y a Panim des Panim. Chacun de ces 70 angles a un angle différent. Ça veut dire que c'est extraordinaire. Ça s'arrête. C'est sans fin. Ça veut dire qu'on peut faire le même cours de Torah autour de la même table. On peut lire le même support. Et chaque personne qui est ici, c'est autant de façons et autant de regards différents pour comprendre la Torah. C'est un kiff. Mais quand tu lis ces mêmes personnes, tu dis, viens maintenant, on va aller à un cours de halakha. L'halakha, tu peux pas commencer à faire le malin. Tu dis, écoute, il a dit ça, mais il voulait dire ça. Il n'y a pas. C'est l'halakha. C'est le din. Comme dit l'expression, ikov adin et ta'ar. Que le din tranche la montagne. Ça veut dire que, il n'y a pas à discuter avec le din. L'halakha, c'est l'halakha. On bouge pas. Et c'est dur, c'est difficile à accepter. Alors celui qui est dans le développement de l'halakha, peut-être que bon, il aura un petit kiff. Mais bon, à un moment, des choses que tu comprends pas. Et on te dit, c'est quand même la halakha est comme ça. C'est difficile. Il faut beaucoup d'abnégation. La halakha demande abnégation. Si on cherche aujourd'hui l'abnégation que nos patriarches ont eue, l'abnégation que Moïse a eue, l'abnégation que les prophètes ont eue, l'abnégation qu'il y avait qu'on a eue au don de la Torah, l'abnégation qu'il y avait au sein des saints. C'est-à-dire, c'est une abnégation que ce que Dieu il dit, on fait. On peut retrouver une sorte d'avant-goût de ça et de rappel de ça dans l'étude de la halakha. Parce que c'est ça la halakha. La halakha, c'est Dieu a demandé, je le fais, point barre, que je suis d'accord ou je suis pas d'accord. C'est très difficile. Des fois, tu vas voir des gens, tu lui dis, est-ce que tu veux mettre les téfilines? Il dit, ah, moi, je suis juif dans le cœur. C'est très difficile à répondre à ça. Qu'est-ce que tu vas répondre? Eh bien, c'est vrai, c'est un très bon juif, hein, il fait des mitzvot, etc. Très sociable, très gentil, très généreux. Vraiment, il est là, il est tout le temps aidé, etc. Aider les autres. Il va en dire aux malades dans les hôpitaux. Il fait ce qu'il sent. Mais ce qu'il sent pas, il fait pas. Vous savez ce qu'on lui répond à celui-là? On lui dit, toi, tu fais pas les mitzvot. Toi, tu fais pas la halakha. C'est quoi la halakha? La halakha, c'est faire le code, faire ce que Dieu demande, même quand tu comprends pas. Je vous donne un exemple. Imaginez, à côté de chez vous, vous avez un, voilà, puisqu'on a Jackie qui est là, vous avez un feu rouge. D'accord? Combien de points on part pour un feu rouge?
4.
Hein? 4 points, d'accord?
Il y en a bon. Qui n'ont jamais grillé de feu rouge.
Alors, imaginez, vous avez, hein, 4 points.
Ça va vite.
Ça veut dire le gars, il a brûlé 3 feux rouges, il a perdu son permis.
Et 90 euros.
Bon. Alors,
si t'as pas ramassé un piéton, ça va.
Imaginez un feu rouge qui est à côté de chez vous. D'accord? Un feu rouge piéton. C'est-à-dire, c'est même pas un feu rouge intersection. C'est un feu rouge pour des piétons, pour que les piétons passent. Vous êtes à côté, c'est pas que ça a rien, mais ça pour des piétons, certainement. Vous êtes à côté de chez vous, vous connaissez parfaitement la rue, il est 4 heures du matin. D'accord? Paris, c'est plein de feux rouges comme ça. Un feu rouge piéton. Il n'y a rien, il n'y a personne. T'es à un boulevard Masséna, t'es devant un feu rouge, il n'y a personne. Il n'y a personne qui passe. Il est 4 heures du matin, il n'y a personne, tu le vois. C'est éclairé, il n'y a rien. Et tu es là, tu attends. Une minute. Tu es là, tu attends. Tu dis, mais attends. Logiquement, il ne va rien se passer si je brûle le feu rouge.
Si.
Moi, je suis un homme qui respecte la loi. Non, mais à part les flics.
Non,
à part la peur du gendarme.
Caméra,
oui,
là.
D'accord, non, à part la peur du gendarme. Je parle en tant que valeur civique. D'accord. Pour moi, je me dis, bon, pendant la journée, je m'explique. Je me dis, tu comprends, il faut respecter la loi, c'est important, tu sais jamais, il peut avoir un accident. Mais en pleine nuit, tu peux avoir une petite voix qui te dit, écoute, il va rien se passer. Alors, t'as celui qui va dire, je le brûle pas quand même, on sait jamais, peut-être qu'il y a la police derrière. Bon, t'as celui qui va dire, je pose pas de questions, c'est tout. Mais t'as celui qui réfléchit dans un mode de halakha. C'est un exemple, halakha. C'est pas Dieu qui a fait ça. C'est quoi l'halakha? C'est la loi.
Il arrête quand même.
C'est tout. C'est la loi. Que je le comprenne ou je le comprenne pas, c'est la loi. C'est ça la halakha. La halakha, c'est des fois je comprends, des fois je comprends pas, mais c'est la loi. Même si des fois, il faut le dire, des fois dans le code, Jackie, il y a des lois bêtes. Pas tout. Des fois, il y a un truc qui a été fait parce qu'il y avait une réalité dans les années 50 qui n'existe plus, etc. Mais on l'a gardé. C'est comme ça.
Hein, c'est... Ils sont en train de changer.
Ah, ils sont en train de changer. La réforme.
Un reçu sur 50 aujourd'hui.
Il y a un quoi? Il y a un?
Un reçu sur 50.
Ah bah oui, parce qu'il y a les panneaux tellement...
C'est vrai?
Mais oui.
Si peu que ça?
C'est ce que j'ai entendu.
Avec le nouveau... Mais les gens, ils repassent leur permis. Ils ont pas... les gens... Il y a quelqu'un qui m'a dit...
Moi, tu fais passer le code maintenant.
Quelqu'un m'a dit hier. Il m'a dit, il est avec un avocat rétroactivement de récupérer. Il m'a dit, mais tu m'as dit si je repassais? Il m'a dit, mais tous les panneaux, j'ai vu le truc du code, je sais même pas de quoi il parle, hein, ces panneaux. Ouais. C'est quelqu'un qui conduit tous les jours.
Bah oui,
mais. Tu sais même pas ce que c'est ces panneaux, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est.
Hein? Bientôt quoi, la voiture autonome, on n'aura plus besoin du permis, ça suffit.
Laisse-moi ouvrir juste une parenthèse.
Allez.
Du quartier. Ça, ils ont mis une caméra, vous voyez l'avenue d'Ivry, l'avenue Boulevard-Masséna, vous arrivez à l'avenue d'Ivry.
Ouais.
Attention, il y a deux caméras là.
Dans le périph.
Là, la boulevard Masséna.
Ouais.
Masséna. Avant d'arriver,
là, vous allez dans ce sens-là.
Après le.
Pour
après
aller à l'avenue d'Ivry ou la rue nationale.
En allant vers Jean Casino.
Oui.
D'accord.
Premier. Pas, premier
carrefour d'Italie vers la porte de Vincennes.
Ouais.
Oui, d'accord.
Premier carrefour.
Ouais.
Attention, il y en a qui restent à droite et qui tournent à gauche.
Quel
comme
carrefour
ça.
Avec quelle rue?
Oui, il y a deux. Il y a deux.
À ce carrefour, comme pour tourner avenue d'Ivry
nationale.
Comme pour tourner
à gauche, on dit.
Ouais, ouais.
Il y a deux caméras sur le feu.
Ouais.
Il y a comment il s'appelle
avenue d'Ivry. Oui, oui, là-bas, ouais.
Le bijoutier, comment il s'appelle?
Je vais toujours faire moi là.
La David Asmar Cazolet.
Oui.
C'est pris un truc comme ça par la caméra. Faites attention.
Pas dit oui.
Faut tout le temps faire attention.
Non. Mais sur les feux.
Mais ça, c'est un feu rouge typique à 4h du matin, il sert à rien.
Oui, absolument.
Mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est la loi.
Mais il va tâcher.
Le flash qui est venu d'Italie, tout le monde le connaît.
Ouais, bah, on l'a pris tous. Hein,
et il marche toujours, moi, j'habite juste en à côté. Ouais, ouais. Hein. Non, c'est permanent, c'est
fait avoir.
Ouais. Tout le monde le connaît pas.
À combien?
J'ai pris 55, mais j'ai pas pris 30.
Bon, en tout cas. Ah, mais il y a aussi le flash du périph, là, 51, le 50. 50 là.
Oui. Oh là là. Et 50.
Oh. Alors. Bon, en tout cas, c'est la loi. C'est la loi. C'est comme ça. Hein? C'est quoi, c'est?
États-Unis.
55 miles.
Direct, je vous fais
ne plaignez pas.
55 miles.
100 km/h, ça fait. Tu te rends compte quand t'as. Route? T'as 10 heures de temps.
Oh là,
tu bloques le truc, c'est tout, c'est fini.
Ouais.
C'est la loi, c'est comme ça.
Ouais.
Voilà. J'ai eu le cas récemment, j'ai eu un ami.
Un billet dans le passeport.
Il s'est fait flasher, là. Allez, à côté, Port d'Ivry. Là. Il s'est flashé Port d'Ivry. Le, dans le périph.
Ah, sur le périph.
51 au lieu de 50.
Non, ça va, ça passe.
Non, ça passe pas.
Non. Il y a une marge.
Mais la réduction, elle est parce que.
Après la réduction.
La réduction, elle est parce que le radar, il peut avoir une marge d'erreur de 10%.
Voilà, après réduction, il y a 51. Moi aussi, j'ai déjà eu comme ça. Moi aussi, j'ai déjà eu un kilomètre.
Même pour un kilomètre.
C'est pas 10%.
C'est ce qu'ils ont appelé.
Non, c'est après réduction qu'il a eu 51. Donc il était à 56, 57 déjà.
Il y a une marge d'erreur.
Il était à 57. Il n'était pas à 51. Il était à 57.
Non, s'ils ont mis les
57 moins 10%, ouais, et après
non.
Il voit. Oui,
mais ils ont mis les 5 km/h. Pourquoi ils ont mis les 5 km/h? Parce qu'il y a une marge d'erreur.
Non, ils te redirent 10%, toujours.
Tu veux la 56 moins 10.
Moins 10. 56 moins 5,5, tu tombes 50,5.
Voilà. Donc, parce qu'il y a une marge d'erreur, donc c'est sûr.
Oui, d'accord.
Bon, en tout cas,
une marge d'erreur.
C'est ce qu'a dit Sarkozy, pour revenir à, on va revenir à notre sujet, zéro tolérance. Vous vous rappelez la politique, zéro tolérance. C'est comme, c'est la loi. Alors, tu peux pas commencer à discuter comme au Maroc. Tu peux pas commencer à discuter comme au Maroc et dire, bon, écoute, ça va, 51 au lieu de 50, c'est pas grave, allez, ça va. Allez, voilà un billet, c'est bon, allez, sois tranquille. Y a pas à discuter. 51 au lieu de 50, 90 euros, un point, c'est tout. C'est comme ça, y a pas à discuter. C'est la halakha. Ben c'est ça la halakha. La halakha, c'est la règle.
Bien sûr.
C'est ce qu'il dit ici.
Il faut accepter, c'est tout.
Et donc c'est une abnégation.
Bien sûr.
C'est la règle. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut favoriser l'étude de la halakha. Bien sûr qu'on va étudier à part ça d'autres choses, mais c'est important de favoriser l'étude de la halakha, puisque c'est dans l'étude de la halakha qu'on a cette abnégation à Kadosh Baruch Hu, la même abnégation qu'il y avait dans le temple, la même abnégation que le patriarche.
Ça peut être fait d'un cœur complètement sec, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure. Celui qui n'aime pas beaucoup la halakha, il fait d'un cœur léger. Mais là, ça peut être fait d'un cœur complètement sec de suivre la halakha.
Oui, ça veut dire quoi sec? Qu'est-ce que vous voulez dire par sec?
Ben, je veux dire, le type, il fait sans ça émotion. Parce que c'est obligé.
Ben, oui.
Oui. Mais au moins il le fait.
Il y a une expression latine.
Il y a une sorte d'abnégation.
Là, c'est vraiment ça.
Dur Alex Lex.
Dur Alex, sed Lex.
Sed
Lex. La loi est dure, mais c'est la loi.
C'est la loi. D'accord, c'est ça ce qu'il dit.
Montesquieu aussi, il a dit, quand une noix, elle n'est pas bonne, il n'est pas utile, il est utile de ne pas en faire.
Dans l'esprit des lois.
Dans l'esprit des lois.
Ça, c'est valable pour la loi des hommes.
Voilà.
Mais Montesquieu...
Mais pas celle de Dieu.
Bon, d'un autre côté, il y a des tordus qui disent, les lois sont faites pour être contournées. Voilà.
C'est des pervers.
C'est des pervers.
Oui, c'est leur métier.
Oui, c'est leur métier. C'est pas la même chose.
Tu t'en souviens ?
Ok. Alors, pourquoi dans la halakha, on retrouve la volonté de Dieu ? Pourquoi dans la halakha, c'est la halakha représente la bénégation ? C'est très simple. Pourquoi ? Il dit parce que... Je suis à la page 102, deuxième paragraphe. C'est quoi la halakha? La halakha, c'est la volonté de Dieu et sa sagesse qui sont habillées dans des halakhot qui sont érigées devant nous. Et donc c'est mamash, ça veut dire que il n'y a pas je pense que, il n'y a pas tu penses. C'est la volonté de Dieu, point barre. Fais ci, fais pas ça. C'est difficile. Vélachène, c'est pour ça.
Mais juste pour, parce que là, c'est quand même, on parle de Kodesh Kodashim, c'est accessible que Kohen Gadol.
La halakha d'aujourd'hui, c'est le Kodesh Kodashim.
Oui, d'accord. Mais là, on dit pour la révélation de Dieu dans le Kodesh Kodashim, mais c'est accessible finalement ce niveau-là, Kohen Gadol, au moment de Kippour, ainsi de suite. Mais c'est-à-dire que pour nous, comment finalement c'est arrivé
la halakha. c'est quand, tu, quand par exemple il y a une halakha qui ne te plaît pas, qui est difficile pour toi, et tu vas la faire quand même parce qu'il faut la faire, eh bien tu viens de réveiller à ce moment-là une abnégation qui ressemble à l'abnégation d'Abraham Avinu.
Au niveau, et quand il y avait le temps, et quand il y avait le temps, ça changeait quoi?
Quand il y avait le temps, c'était pas seulement dans la personne, c'était dans le temps et l'espace. Il y avait un lieu, il y avait un lieu
oui, qui était accessible, qui n'était pas accessible.
Tu as raison, mais qui existait quand même, qui était présent.
C'est une matérialisation justement de.
Mais il n'était pas accessible.
Tu as raison, il n'était pas accessible. C'est vrai.
Donc voilà, qu'est-ce que ça change finalement?
On pouvait venir au temple en sachant que qu'à 200 mètres dans l'endroit dans lequel tu te trouves, et il y a le Saint des Saints. Tu t'imagines l'impact que ça fait? Alors, ça te marque.
Temple, alors la halakha, elle disparaît.
Quoi?
Quand il y a le temple, le fait d'accepter ou de ne pas accepter de pouvoir faire ou de ne pas pouvoir faire la
halakha. Non, la halakha, elle reste toujours là. Mais aujourd'hui, si tu veux, on cherche des sources d'abnégation. Où on retrouve l'abnégation aujourd'hui?
Oui, mais alors dans ce cas-là, si je me soumets à la halakha, pour certaines règles de la halakha, bien que je ne les comprenne pas, alors dans ce cas-là, je les fais avec mes actes, avec ma bouche, avec mes mains et pas avec mon cœur.
Ça n'est pas de problème. Déjà, on fait ce que tu lui demandes. C'est très difficile à faire quelque chose sans le comprendre. Fais-le, par abnégation, comme le char. Il tourne à droite, tu tournes à droite. Tourne à gauche, tu tournes à gauche.
Mais c'est ça la confiance aveugle.
C'est plus qu'une confiance, ça.
C'est une soumission totale.
C'est une soumission. Ouais. C'est une soumission absolue à Kadosh Baruch Hu. C'est difficile, c'est très difficile. C'est ça, la halakha. C'est en vérité. Il emploie ici le terme. Il emploie ici le terme. Je voudrais donner un exemple aussi qu'on donne souvent au cours de dimanche de Shabbat matin.
C'est difficile parce qu'il emploie. C'est ça le problème.
Il emploie ici le terme volonté.
Si on l'avait pas, il y
aurait... C'est quoi le terme volonté? Il dit qu'on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je donnais souvent l'exemple d'un homme qui est là à 4 heures du matin et sa femme qui est enceinte lui dit je veux un gâteau à la crème, un fraisier à la crème. Ah. Où va lui trouver à 4 heures du matin maintenant un fraisier à la crème? Alors il va aller, il va chercher et il va trouver un gâteau qui vaut 10 fois le prix et qui sait que sa femme aime. Il revient à la maison, il dit voilà, je trouve un super gâteau, du chocolat, je suis sûr que tu vas aimer. Et lui, qu'est-ce qu'elle lui dit?
Elle veut pas.
Non, c'est pas ça ce que je voulais. Oui, mais d'accord, mais réfléchis. J'ai amené quelque chose de beaucoup mieux. Si tu voulais te faire plaisir, tu voulais quelque chose de bon, voilà, je fais quelque chose de très bon. Non, mais c'est pas ça ce que je veux. On discute pas avec une volonté. On peut pas discuter. Il veut, c'est fini. Ça passe pas, ça passe pas. C'est la même chose. Dieu, la halakha, c'est la volonté de Dieu. Avant d'être la sagesse de Dieu, c'est d'abord la volonté de Dieu. Dieu veut que ça se passe comme ça. Mais j'ai pas compris. Mais c'est pas grave, t'as pas compris. Il veut que ça se passe comme ça.
Mais il y en a beaucoup qui ont été interprétés par les hachamim.
Non, Dieu. Le rôle des hachamim, c'est quand il y a des halakhot qui ne sont pas explicites dans la Torah, leur rôle, c'est d'essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Pas de comprendre ce que moi, j'en pense.
Et donc de les expliquer.
De comprendre, avec mon cerveau, comment je peux comprendre ce que Dieu attend de moi. C'est comme quelqu'un qui vous a donné des instructions. Tu veux faire ce qu'il t'a demandé. Mais il y a des choses qui n'étaient pas claires. Donc tu vas te casser la tête pour comprendre qu'est-ce qu'il veut bien que je fasse pour lui. C'est-à-dire que tout ce cassement de tête des Chachamim, c'est pour essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu.
C'est pour faire l'interprétation des...
Pour comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant. C'est ça. C'est pas pour dire, c'est pas qu'on débarque au Beit HaMidrash et le maître Rabba il dit, moi je pense qu'il faut faire comme ça. On n'a rien à faire ce que tu penses. Moi je pense que Dieu attend de nous qu'on fasse ça maintenant.
Et dans cette interprétation, il n'y a pas eu des...
Bien sûr, il y a un autre maître qui est, voilà. Bien sûr, il y a un autre maître qui est en face, qui dit, moi je pense que Dieu n'attend pas ça de nous, Dieu attend autre chose. Mais encore une fois, c'est pas un conflit d'ego. C'est pas un conflit de, que un il pense comme ça, l'autre il pense comme ça, parce que mon ego et chacun des intérêts. C'est même pas un conflit d'intérêts. C'est un conflit existentiel pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. C'est comme par exemple, imaginez, c'est bientôt l'anniversaire de papa. D'accord? Et vous avez 3 enfants. Ils veulent offrir un cadeau. On va pas offrir 3 cadeaux, on va offrir un cadeau à papa. On veut quand on fait l'anniversaire, on arrive les 3 ensemble, on amène un cadeau. Et les 3 vont se battre pour disputer quel est le meilleur cadeau que papa voudrait. Chacun aura un autre avis. Est-ce que ça veut dire que chacun a un avis différent parce qu'il a un ego différent? Pas du tout. Le cadeau, il n'est pas pour eux, le cadeau, il est pour qui? Il est pour leur père. Leur machloket va être, qu'est-ce qui ferait le plus plaisir à papa? Qu'est-ce qu'il veut papa maintenant? On peut se casser la tête pour ça. Mais ça tourne pas autour d'eux, ça tourne autour de Dieu. Le centre de gravité, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Et c'est ça la halakha. La halakha, c'est de comprendre quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, dans les mots. Là, on comprend mieux quelle est l'importance de l'étude de la halakha. Il faut être honnête, quand on étudie la Gemara, c'est pas forcément comme ça. Bien sûr que dans la Gemara il y a la Halakha, mais quand on étudie la Gemara dans un cours de Gemara, c'est pas forcément orienté vers la Halakha. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'arrière-petit-fils de l'auteur de ce livre, d'ailleurs même le petit-fils de Morazaken, il a innové une nouvelle approche dans l'étude de la Gemara, qui est pratiquée dans certaines yeshivot. J'étais dans les yeshivot Rabat où c'était pratiqué, c'est pas dans toutes les yeshivot. Il appelle ça les Asuke Shema Teta Eliba de Ilcheta. Ça veut dire de s'arranger pour orienter l'étude de la Gemara vers la Halakha. De faire en sorte que l'étude ne reste pas abstraite.
C'est un peu détourné de la Gemara.
Non, c'est pas détourné de la Gemara, parce que le but de la Gemara, c'est la recherche de la Halakha. Mais la vérité, c'est que dans un cours de Gemara, en général, on cherche pas la Halakha, on cherche la logique. On cherche le raisonnement. Et donc du coup, on oublie, on peut perdre de vue qu'on est en train de chercher ici la volonté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, Abraham?
Ah oui, d'accord, c'est pour inclure dans cette étude...
Pour inclure l'abnégation. De se dire, bon, il y a les logiques, mais concrètement, la halakha est comme ça. Et ça, je peux vous garantir que... Ça, j'ai vu plusieurs fois dans le cours de Gemara. Tu fais un cours de Gemara, t'as forcément dans le cours un qui va plus adhérer à un avis, l'autre qui va plus adhérer à un avis. C'est-à-dire, des fois, t'as marqué de Rabbi Yossé, Rabbi Yoshua, tu le retrouves à table, Rabbi Yossé, Rabbi Yoshua. Un qui dit, moi, pour moi, Rabbi Yossé a raison, l'autre qui dit, moi, pour moi, Rabbi Yoshua a raison. C'est comme ça. Et quand on a fait, vous savez, c'est Rabbi Yossé, il a l'air étrange avec Rabbi Yossé. Celui qui pensait qu'en Rabbi Yossé, il va dire, mais attends, pourquoi? Je suis pas d'accord. Hein. Et c'est comme c'est l'alakha. Donc, Amlou Bashim, Ba'alachot, Aouchot, Lefanin. Qui sont donc l'alakha, c'est la volonté de Dieu et sa sagesse qui sont habillés dans l'alakha qui sont devant nous. Mais là, c'est pour cela. Achar, Shia, Mik, Adam. Juste au troisième paragraphe, page 102. Après qu'une personne va réfléchir, il va approfondir sa pensée dans cette annulation à Kadosh Baruch Hu au maximum de son possible. Ça veut dire qu'il va essayer de réfléchir comment, dans ma vie à moi, il y a des éléments dans lesquels je dois faire appel à l'abnégation. Il y a des choses qui sont acquises chez moi. Le Shabbat, les fêtes, c'est acquis. Ma discussion, c'est ce que Dieu demande, je fais. Mais il y a des choses que c'est pas acquis. Ce que Dieu demande, je ne fais pas forcément. Je fais, bon, j'écoute pas toujours. Quand je vais me travailler pour écouter ce que Dieu veut et que je vais me travailler et comprendre sur le fait que qui est le patron, c'est Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, Zot, Yeshivel Libo, à ça, il va penser Kimiyot, Katan, Vessi, Chili, Veshorech, Shmati, Kimiyot, pardon, Katan, Tichli, Veshorech, Shmati, Machilot, Markav, Mishkel, Rude, Bar, Mehmet, La Mito. Là, je vais me dire, attends, franchement, même si j'ai fait le malin, j'ai fait le beau, Baruch Hashem, j'ai une abnégation à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait mon Shabbat comme il faut, j'ai fait mon Pessah comme il faut. Mais franchement, est-ce que je suis au niveau des patriarches? Est-ce que je suis au niveau que je suis une abnégation soumise, une abnégation absolue à Kadosh Baruch Hu, que ce que Dieu demande, je fais automatiquement?
Non.
Non, bien sûr que non. Je le fais peut-être sur certaines choses. Peut-être à certains moments. Certaines périodes de l'année, peut-être. Mais je suis pas comme ça. Je suis petit pour ça. Je suis un petit joueur, moi. Et donc, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Me'acha, Deleit, Marshava, Dile, Tfisa, ou Maseget Boyd, Barerklal. Étant donné que mon esprit n'est pas capable de comprendre la Kadosh Baruch Hu à un niveau tellement fort. Shumasaga Baolam, Velo Shematmino ou Masagot Avodvanevim. Faut bien comprendre que les patriarches, et ça c'est très important ce que je vais dire, chez les Arabes, et chez ceux qui apprennent à éteindre leur cerveau, quand une personne qui est intelligente...
n'a jamais été allumée.
D'accord. Non, pas du tout. Non. Les Arabes, c'est pas les imbéciles. C'est pas les imbéciles, les Arabes. C'est loin de là. Il faut jamais sous-estimer son ennemi.
Absolument.
D'accord. C'est pas les imbéciles. En général, ils sont fifs.
Fifs dans le mal.
D'accord. Mais c'est pas les imbéciles. Non, c'est pas les imbéciles.
Non, pas dit ça. Voilà. On est tous dans le mal. Non, pas tous.
Seulement, qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont aller en Syrie et je ne sais où, on va les endoctriner. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va les endoctriner? On va leur éteindre le cerveau. On va leur apprendre à arrêter de réfléchir.
C'est ça notre but. C'est la définition de votre...
Ça veut dire que quand il va arriver devant sa mission qu'on lui a donnée, son cerveau, forcément, voudrait lui dire, mais attends, c'est une folie ce que tu fais, arrête-toi.
Le robotiser.
On va le robotiser. On va lui éteindre le cerveau. Alors, est-ce que, c'est ça ce qui est, c'est un peu le danger. On est en train de dire que les patriarches, c'est comme des robots. C'est-à-dire, Dieu il dit à droite, on va à droite. Dieu il dit à gauche, on tourne à gauche. Est-ce que quelque part, c'est pas de la radicalisation, ça?
aller tuer son fils. Ouais.
Oui. Ah, oui. C'est ça. Tu dis pas, voilà, Abraham, Dieu lui dit, va tuer ton fils, il y va.
Ah, oui.
Eh, oui, c'est comme, vous savez, c'est comme ça qu'on les éduque. Hein. On lui dit, si ton frère, il n'est pas voué à l'islam, il faut le tuer. Hum. Il n'a pas peur de tuer son frère. La fameuse vidéo, vous vous rappelez, Charlie Hebdo, un des policiers, c'était un arabe. D'accord. Ouais, il se met à lui parler, il lui dit, mais on est les mêmes. Tire. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Oui. Donc il tournait en boucle. C'est horrible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le gars, on lui a éteint son cerveau. À un moment, tu te dis, mais attends, il y a une incohérence là. Même si tu vas dire que tu ne supportes pas, je ne supporte pas, il est comme toi. Non, il n'est pas comme moi. Je tire. Ça veut dire qu'on lui a appris à éteindre son cerveau. Alors, est-ce que quelque part, ce qu'on est en train de dire ici, les patriarches, les prophètes, nous aussi, la halakha, est-ce que quelque part, ce n'est pas une radicalisation? La vérité, c'est que souvent, souvent, il y a des gens qui le vivent comme ça. Quand, par exemple, quelqu'un, il est issu d'une famille qui n'est pas religieuse, qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, et qui devient religieux, et ils vont dire, le pauvre, il est devenu religieux. Il est devenu, ça veut dire, c'était souvent comme ça. À l'époque, quand quelqu'un est devenu religieux dans la famille, les gens, ils parlaient, ils disaient comme si, bon, le pauvre, il est devenu un peu, il est devenu fou, quoi. On lui a bourré le cerveau. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'il voit de l'extérieur? Oui, une personne, il était là, le samedi soir, le vendredi soir, il était là, le grand kiff, etc. Et là, on ferme. Il s'est radicalisé. Alors, quelle différence entre un rabbin et un fichier S? Quelle différence?
Elle est très simple, la différence.
Alors, attendez une seconde. Ah, bon, quelle est la différence? La différence est plus que simple. La différence est évidente. C'est que il y en a un qui a éteint son cerveau. Ça, effectivement, c'est pas bien.
Parce qu'il est allumé.
Ça, effectivement, celui qui a éteint son cerveau, il est radicalisé et Dieu nous a pas créé un cerveau pour qu'on l'éteigne. Par contre, les gens comme les prophètes, comme les patriarches, etc., et comme ceux qui font teshuva, c'est pas qu'ils ont éteint leur cerveau. C'est qu'ils ont tellement réfléchi qu'ils sont arrivés à un niveau de compréhension extraordinaire et que à ce niveau de compréhension, tu comprends que ce qu'il te dit, il faut écouter. C'est pas une bêtise, c'est pas qu'il dit j'arrête de réfléchir. Au contraire, tellement je réfléchis, tellement j'ai compris la grandeur que je sais que je peux avoir une confiance aveugle en Kadosh Baruch Hu. C'est complètement différent. Ça n'a strictement rien à voir.
Ils vont te rétorquer que c'est la même chose.
D'accord.
Ils
peuvent rétorquer ce qu'ils veulent.
Non,
c'est la réalité.
C'est-à-dire qu'eux, ils vont dire que nous aussi, on a une compréhension du niveau de ce que c'est, machin.
De quoi?
Atteindre le niveau
non, parce que c'est
suprême,
parce que
il faut se sacrifier.
Ils ont des méthodes. Voilà. Non, mais on connaît leurs méthodes.
Voilà, bien sûr.
Nous, nos méthodes pour amener les gens à la teshuva. On ramène pas les gens à la teshuva en leur faisant peur, en éteignant leur cerveau. On ramène les gens en discutant avec eux.
C'est clair. Eux, ils commencent par leur éteindre.
Tu comprends? On dit pas aux gens, venez, etc. On les endoctrine, on les manipule, on va carrément les hypnotiser.
Ouais.
On les a hypnotisés, on a éteint leur cerveau. C'est leur méthode, c'est connu que c'est leur méthode. Ils le cachent pas, c'est leur méthode. C'est pas nos méthodes à nous, ça. Nous, on fait pas des choses comme ça. Peut-être qu'il y avait certains rabbins qui faisaient ça à l'époque du Baal Shem Tov. Mais le Baal Shem Tov a combattu ça. Et aujourd'hui, ça n'existe presque plus, ça. C'est pas comme ça qu'on ramène les gens à la Torah. On ramène les gens à la Torah avec l'amour. Viens, on va discuter. Je veux pas décider à ta place, c'est toi qui vas décider. Je vais t'élever ton cerveau, je vais te comprendre que tu ne sais pas réfléchir. Et quand tu vas réfléchir toi-même avec ton cerveau, tu vas comprendre que c'est toi qui t'es trompé. C'est extraordinaire ça. Quand quelqu'un il se trompe et que tu lui dis, je veux pas t'expliquer pourquoi tu te trompes. Je vais te montrer les faits devant toi et de toi-même tu vas comprendre que tu te trompes. C'est extraordinaire. Et ben, c'est ce qu'on fait avec la Torah. Ça c'est le niveau des patriarches. Le niveau des patriarches, des prophètes, etc. Les écoles de prophètes. Vous savez que dans les écoles de prophètes, on apprenait à quitter la matière. On apprenait à quitter la matière, ça veut dire à s'élever au-delà de la matière, pas en dessous de la matière, au-delà de la matière. On leur apprenait, par exemple, avec la musique, avec etc. Ah, aujourd'hui, on est, on peut dire, on est conditionné. On est conditionné à réfléchir dans un certain mode, avec les médias, avec, etc. On est conditionné. Quand on apprend à sortir de ça, on peut décoller. Ça, c'est les prophètes. Nous, on n'est pas comme ça. Alors, moi qui est maintenant quelqu'un de petit, qui n'est pas au niveau des patriarches. Les patriarches et les prophètes sont à un niveau tellement fort qu'ils ont réussi à aller au maximum de leur cerveau, au point qu'ils ont compris que maintenant il faut avoir une abnégation. Moi je suis pas à ce niveau-là. Donc comme je suis pas à ce niveau-là, moi je suis bon au niveau des petites gens, ça veut dire qu'on est là. Des fois on arrive, des fois on n'arrive pas, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Il azote, c'est pour cela. Et voilà la conclusion. Et c'est l'eau, Mishkan ou Machon les Shifto. À défaut d'être comme un patriarche, à défaut d'être comme un prophète, qui est quelqu'un qui a réussi à éteindre complètement son cerveau, dans le sens qui s'est élevé complètement vers Akadosh Baruch Hu, Si je ne suis pas comme ça, au moins, je vais construire un Mishkan dans mon corps. C'est quoi? Parce que rappelez-vous, quand Dieu a donné la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment du don de la Torah, une abnégation absolue à Kadosh Baruch Hu. Mais notre corps n'a pas tenu. Donc c'était quoi la solution de repli? On a construit le Mishkan. Alors nous aussi, le top, ça aurait été d'être comme un prophète. Abnégation absolue à Kadosh Baruch Hu. À défaut d'être comme un prophète, puisque notre corps ne suit pas, qu'est-ce qu'on fait? On va construire un Mishkan en nous. C'est quoi le Mishkan? C'est ou à Esek Betalmud Torah, c'est l'étude, d'accord? C'est la préoccupation dans l'étude de la Torah. C'est très intéressant l'expression qu'il utilise ici. La préoccupation. Alors, la préoccupation dans l'étude de la Torah. Ça veut dire quoi être préoccupé par l'étude de la Torah? Bon, la journée, il faut travailler. Dieu nous a demandé d'aller travailler. Il faut bien ramener à manger à la maison. De ramener à la Parnassa. C'est bon, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe?
Porte de Lyon, encore un coup de couteau.
Là?
À la porte de Lyon, à Jérusalem.
Ah.
Encore un coup de couteau.
Bon, que Dieu le protège. Alors.
Je croyais que c'était fini, cette affaire-là.
Tous les jours, là.
Ah bon?
Il n'y a pas un jour, il n'y a pas. Ah. On ne se rend pas compte des miracles qu'il y a, je ne sais pas si vous imaginez. C'est les miracles tous les jours, tous les jours. Le Véhich Amdala, on le voit devant nous. Je joue une parenthèse, hein, puisque vous l'avez ouverte. C'est mamash des miracles devant nous. On a pas quelqu'un qui vient pour tuer, qui n'a pas peur de se faire tuer. Il vient avec un couteau. Il te prend par surprise. Il a toutes les chances de tuer. C'est incompréhensible. Incompréhensible. C'est des nissim d'Akadjabo tous les jours, tous les jours. Ce que je vous dis, c'est pas moi qui vous le dis. Hein. C'est tellement devenu courant que c'est devenu un fait divers. À l'époque, quand elle est, ça fait 3-4 mois, quand elle est dans les sites, dans les médias israéliens, c'était les gros titres. Aujourd'hui, c'est dans les faits divers, dans les brèves. Extraordinaire. On se rend pas compte des miracles qu'il y a tous les jours. C'est les brèves. Tu vas aller dans les sites de nouvelles israéliennes, tu prends les journaux. Dans les brèves, on dit, ouais, etc. Bon.
Enfin, y en a
quand il y a un mort, on en parle.
Il y en a qui meurent aussi. Hein,
et... Baruch HaShem, il y a des miracles. On ne se rend pas compte des miracles.
Non, c'est à chaque fois qu'on entend quelqu'un qui se fait exposer ailleurs, on entend des 30, des 40, des 50 morts. Baruch HaShem, là, c'est dommage. On a eu une qui est morte avec le bus. C'est Rouhan Ibracha. Mais c'est vrai que ce n'est pas été les proportions qu'on entend à chaque fois.
C'est des miracles extraordinaires. C'est des miracles extraordinaires. Ça, on ne se rend même pas compte. C'est des missiles.
Dans un bus.
On est en galoute, ma chère n'est pas là non plus, mais on est en galoute.
Essek,
c'est le travail. Alors, je parlais justement des affaires. Il est intéressant ici l'expression qu'il utilise. Essek betalmud Torah, la préoccupation de l'étude de la Torah. Normalement, Essek, en hébreu, c'est les affaires. Les hommes d'affaires, on appelle Baalé Essek. Bon. Alors, pourquoi il emploie ici le terme la préoccupation de l'étude de la Torah? Alors, en fait, l'Admor HaZaken explique comme ça. Il dit que, pourquoi on parle de préoccupation? On va tous travailler pendant la journée. Bon, concrètement, combien de temps on va étudier par jour, même par semaine? Peut-être on va étudier, je ne sais pas, peut-être une personne va étudier une heure, deux heures par jour, peut-être une heure par semaine, peut-être deux heures par semaine. Ça dépend, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Donc finalement, le plus clair de sa semaine, il va le passer dans quoi? Dans son travail, dans les activités mondaines, manger, dormir, boire. Il te dit ici, la question n'est pas combien de temps tu vas étudier la Torah. C'est pas seulement cette question. La question est la préoccupation de l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'il est possible que tu seras dans tes affaires, mais tu es toujours préoccupé par l'étude de la Torah. Tu sais que je travaille pour aller étudier la Torah, pour que mes enfants étudient la Torah, pour faire une vie de Torah. Donc concrètement, je suis en train de vendre des produits avec des clients, je suis en train d'acheter, de vendre. Je suis pas en train d'étudier la Torah. Mais je suis au sec, Betalmud Torah. Je suis occupé par l'étude de la Torah. À part ça. Il emploie ici aussi le terme Essek. Essek, ça veut dire une affaire. Quand on parle d'un Baal Essek, un homme d'affaires, le Baal Essek dans la Gemara, c'est une personne qui ne travaille pas comme un fonctionnaire. Le fonctionnaire, il arrive le matin à 9h, il va peut-être arriver 5 minutes, il va t'offrir 5 minutes, arrive le soir 17h, plus personne. Maintenant, la boîte est en train de s'écrouler. C'est quoi? Il va te faire une fleur. Vraiment, parce que c'est quelqu'un de bien, etc., de civilisé, d'éduqué. Il va rester jusqu'à 17h30. Une fois qu'il a badgé, rentre dans le métro, met ses écouteurs, il sort son livre, il s'en lave les mains, il n'en a rien à faire. La boîte, elle peut s'écrouler, c'est pas sa boîte, c'est pas son affaire. Il rentre chez lui à la maison, il est tranquille, il les aide. Ça. Par contre, le bal est sec. Le patron, celui qui a la tête dedans.
Il est toujours préoccupé.
Il est minuit. Sa femme lui dit, mais pourquoi tu ne vas pas dormir? Mais tu comprends, il y a un truc. Il dit, il se passe aujourd'hui. Il dit, mais attends, il n'y a plus rien aujourd'hui. Ils dorment, tes clients. Il n'y a plus rien. Il n'y a personne à appeler maintenant. Il dit, oh, va dormir. Tu vas être fatigué. C'est logique ce qu'elle dit. Mais va dormir. Parce que si tu vas dormir tard, tu seras fatigué demain. Et tu vas moins réussir. Il n'arrive pas à dormir. Il est tracassé. Il est à souk. Il est préoccupé. Pourquoi il est préoccupé? Parce que c'est son affaire. C'est pas l'affaire de quelqu'un d'autre. Qu'il dit, bon, bah, écoute, moi j'ai fait ce que j'ai pu, et après, qu'advienne ce qu'il advienne, hein, c'est pas mon problème. C'est mon affaire. Si ça coule, c'est moi qui coule. Quand on te dit de Osek Betalmud Torah, quand on te parle d'être préoccupé par l'étude de la Torah, c'est pas venir à un cours de Torah comme un fonctionnaire. Je suis venu, je suis parti, j'ai essayé de comprendre, on a compris, voilà Dieu, je fais ce que j'ai pu, maintenant je rentre chez moi, et je retourne à mon programme. Allez, on zappe. Non. Quand on vient à un cours de Torah, on doit être Osek Betalmud Torah. C'est-à-dire, je dois me casser la tête comme si c'est mon affaire. Et quand c'est ton affaire, quand t'essaies de cuisiner un client et que ça passe pas, tu dis pas, bon, ben, écoute, c'est pas grave, tant pis, prochain client. Non, mais attends. Ça passe pas. On va re-essayer d'un autre côté. On va re-essayer d'un autre angle. C'est pas possible. Un fournisseur, il t'appelle, il dit, bon, écoutez, monsieur Assouline, on a décidé, de changer de fournisseur. Tu dis, bon, ben, alors bon, tu peux avoir le bon Marocain fier qui va dire, écoute, ben, pas de problème, cherche un fournisseur. Pas du tout, ça n'existe pas, ça. Mais attends, pourquoi un fournisseur? Tu vas te battre! Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez une remise? Vous voulez un truc? Puis là, tu vas t'accrocher. Tu vas attraper le taureau par ses cornes. Parce que c'est mon affaire. Ça, il n'y a qu'un patron qui peut faire. Un employé, bon, essayez, qu'est-ce que tu veux? Ah, ben, désolé, le patron, il a dit, le client, il veut plus. On a fait ce qu'on a pu. C'est pour ça qu'il dit ici au sec Betalmuto. Aujourd'hui, si on veut retrouver l'abnégation, un petit peu de l'abnégation qu'ont les prophètes et comme Moshe Rabbeinu, etc., c'est quand on va étudier la Torah de façon à ce qu'on ait un resek Betalmuto. Qu'on étudie la Torah avec un resek. Ça veut dire que quand par exemple je vais venir à un cours de Tania, on va réfléchir à quelque chose. Bon, là, on est dans une structure, c'est-à-dire qu'on a parlé d'un sujet spécifique, etc. Mais après, par exemple, il peut arriver que ce soir vous allez rentrer chez vous et que vous allez utiliser un détail de ce cours qui va vous travailler pour changer quelque chose dans votre vécu. Ça veut dire, par exemple, votre façon de parler à votre femme, votre façon de parler à vos enfants, votre façon de vivre, va peut-être changer sur un détail. C'est bon, ça. Ça veut dire que votre tête était rosec, votre tête était asuka, elle était occupée. Voilà le terme que l'on emploie ici, asek betalmud Torah. Bien sûr, kefi apnai sheli. On va étudier la Torah selon notre temps. Enfin, on ne peut pas non plus... Après, c'est une négligence d'être là toute la journée étudier la Torah alors qu'il n'y a pas la parnassa. Il faut aller travailler. Tu veux nourrir ta famille, il faut travailler. Big view, titim, bayam, balayla. Par contre, ce qu'on va demander, ce qu'on attend de l'homme d'affaires, on lui dit, tu sais comment on fait pour que l'étude de la Torah soit comme une affaire pour toi, soit quelque chose de sérieux? Il faut que ce soit quelque chose de fixe. Fixe. Ça veut dire récurrent. C'est pas quelque chose que, de temps en temps je viens, de temps en temps je viens pas. Quand ça me chante, je viens, quand ça me chante pas, je viens pas. C'est pas des fois tu viens, des fois tu viens pas. Il y a un cours tous les lundis soirs, 20h30. Je sais que tous les lundis soirs, 20h30, je suis là. Maintenant, il peut se passer des tas de choses. Moi, dans ma vie privée, il peut se passer des tas de choses le lundi soir. On peut avoir les invitations, des bar mitzvahs, trucs familiales, etc. Et pas. Alors, moi, c'est facile, c'est lui qui donne le cours. Mais il peut y avoir des tas de choses qui se passent. Il y a pas. C'est kavua. C'est fixe. C'est un moment qui est fixe. Il arrive un jour que tu manges pas. Il y a pas. Il faut manger. Comment il peut arriver une semaine qui ne vient pas au cours de Tania? Pas possible. N'est pas. Mais c'est ça qu'avoua. C'est très difficile, ça. C'est ça qu'avoua. Je dis, mais attends, tu comprends, mais il y a un truc, il y a vraiment un truc. Alors, je vais vous dire quelque chose. Là, tous les dimanches, je vais à la rue Lamartine. À un cours qu'à l'époque, le Ravazima, Zichrono Livracha, est donné. Et il arrive parfois qu'il y ait des occupations. Et que je ne peux pas y aller. C'est très rare, mais ça peut arriver. Par exemple, il y avait un Esguer, il y avait un truc. Je vais vous dire, ma mâche, comment tu as fait les choses. Que si j'ai raté une semaine, je sais pas comment Dieu est fait, il s'arrange pour que la semaine d'après, j'ai une bonne raison pour rater. Et chaque fois, c'est des raisons, mais béton. Une bonne raison. Et c'est là que tu rencontres quand il y a une semaine, deux semaines, trois semaines. Et chaque fois, c'est des raisons béton. Attends, c'est quoi ça? Il y a un problème, là. C'est-à-dire, tu comprends que, quand je me dis comme ça, tu m'abandonnes un jour, je t'abandonne deux jours. Et c'est comme ça. Il faut se battre pour être cavoua. Pour dire non, je m'arrête pas. Quand tu te bats pour pas t'arrêter, Dieu y t'aide. Dieu y t'aide à trouver comment toute ta vie et toute ta semaine va tourner autour de ça. Comme quoi, ta femme, elle va savoir que le lundi soir, on touche pas. Ça peut être un anniversaire de mariage où le lundi soir, on touche pas. Elle le sait. Que, anniversaire de mariage, on ira dimanche soir au restaurant.
Ça m'étonnerait.
Non! Pas ça. C'est que c'est kavua. C'est kavua. C'est très difficile. Je dis pas qu'on arrive tous. Des fois, on arrive pas. Mais c'est à ça qu'on doit tenter vers ça. Kavua, la Keviut. Bigviut itim bayam valaila. Donc là, vous voyez ce qu'il dit ici. Donc là, il nous donne en vérité la recette. Tu veux avoir une abnégation du niveau des patriarches, tu veux avoir au moins un avant-goût de ça, un chouïa. Efforce-toi d'étudier la Torah, en particulier la Halakha, en particulier des choses qui font appel à ton abnégation. On te demande deux choses. Premièrement, on te demande d'étudier la Torah comme un Baal Esek, ça veut dire comme un homme d'affaires, c'est-à-dire que tu mets ta tête dedans et tu essayes de t'impliquer personnellement. Au point que c'est pas je suis venu pour faire plaisir à Dieu. Je suis venu pour m'impliquer, c'est mon affaire, c'est moi. Et si ça marche pas, c'est moi qui ça marche pas. J'ai vu plusieurs fois comme ça des élèves qui viennent après un cours et disent j'ai pas compris. Tu le vois, ils se battent, ils s'accrochent. Et ce n'est pas des gens forcément intelligents, c'est pas des gens très intelligents. Mais tu le vois, ils s'accrochent, ils veulent pas lâcher. Ils prennent ça comme une affaire personnelle. Ils en font une affaire personnelle. On dit bien en français l'expression, j'en fais une affaire personnelle, une affaire. C'est une affaire, comme une affaire, comme du business. Je compte pas la lâcher. Donc premièrement, quand on étudie la Torah, il faut en faire une affaire. Deuxièmement, fixer des temps pour étudier la Torah. Pas des temps de dire, je vais étudier, dorénavant, j'étudie 4 heures par jour. Tu ne le feras pas, ça ne sert à rien. Prends pas des décisions que tu ne feras pas. Prends une décision concrète. Une fois par semaine, mais fais-le. Hein, comme ils disent, just do it.
Just do it.
Tu le fais. Tu dis une heure, tu fais une heure, pas de problème. Et pas, je viens tous les jours. Non, je ne viens pas tous les jours. Commence à venir lundi, mais tu le fais. Pour toi, que ça, tu le fais. Et c'est comme ça qu'on avance. Kedat anitna lechol echad ve'echad. Tel que ça a été fixé pour chacun. Alors attention. Après, on ne peut pas se suffire. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Je développe parce que c'est très important ce qu'il dit ici. Ça veut dire que la loi n'est pas la même pour tout le monde. Pour une personne qui est débutante, on va dire, bon, très bien. Un cours par semaine. Et même des gens, un cours par mois, le cours du Roche Rodèche. Waouh, ça c'est énorme, c'est énorme. Il n'arrive pas plus que ça. Pas de problème. Après, avec le temps, quand tu avances, tu dis, bon, maintenant, il faut passer un cours par semaine. Après un cours par semaine, il faut deux cours par semaine. Ça peut être en écoutant un cours de Torah en téléphone, ça peut être un cours de Torah sur Internet, etc. Eh bien oui, il faut avancer. Kedat anitna l'école echad ve'echad.
Ça compte.
Bien sûr, ça compte. On avance avec le temps. Et pas seulement ça. Une personne qui a un esprit qui est évolué, une personne qui est douée, qui est intelligente, et qui va étudier des choses qui ne sont pas à sa portée, c'est pas bon. Il y a un avis qui pense que ça ne s'appelle pas étudier la Torah, ça. Ça veut dire, si par exemple, tu as un esprit brillant que tu peux rentrer dans la profondeur, et que tu regardes, tu zappes. Ça ne s'appelle pas étudier, ça. Tu n'as pas étudié selon les outils que Dieu t'a donnés. Tu n'en as pas fait ton affaire. C'est comme si tu... C'est comme l'affaire, en vérité. Imaginez que tu as une affaire et que tu peux tirer 100 000 euros du client et tu tires 1 000 euros. Tu es un petit joueur. C'est-à-dire que tu joues un petit joueur alors que tu es un gros joueur. Ça ne marche pas. Un petit joueur, il joue comme un petit joueur. Un gros joueur, il a un gros bolide, il roule à 5 km/h. C'est pas possible. Tu vas casser le moteur. Il n'est pas fait pour. Le moteur, il a besoin de respirer. D'accord ? C'est ça. Akadosh Baruch Hu, selon ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire selon la parnassa qu'on a, selon l'âge qu'on a aussi, il y a des âges où on est plus occupé que d'autres. Il y a des âges où on est plus jeune, des âges où on est plus vieux, etc. C'est flexible, pas de problème. Par contre, ce que tu fais, fais-le bien. Et fais-le de façon fixe.
Comment tu sais le moment de chaque chose ?
Chacun, il se connaît, il sent, bon, on fait ce qu'on peut. Et après, on doit s'occuper de son travail, on doit s'occuper de sa femme, on doit s'occuper de ses enfants, on doit s'occuper, etc. On doit aussi se reposer un peu. Pas de problème. Fais ce qu'il faut faire. Pose pas de questions. Fais ce qu'il faut faire. Pas de problème. Mais, il faut que tu sentes que tu t'épanouisses. Il faut que tu avances. Quand tu sens que tu n'avances plus, ça veut dire qu'il faut rajouter. Il faut rajouter quelque chose. Quand tu sens que, bon, ça, je suis bien, mais je suis pas épanoui. Il faut rajouter quelque chose. C'est comme ça. On grandit. Et quand une fois, il m'a dit, quelqu'un du cours de matin, il m'a dit, on ne peut pas empêcher la croissance. C'est une règle en économie, ça. Ça veut dire, par exemple, un enfant qui est là, il a 2 ans, tu dis, bon, reste comme ça, t'es très bien comme ça, ne bouge pas, comme ça. Tu ne peux pas l'empêcher de grandir. Pareil, quand tu as une affaire, quand tu as une communauté, quand t'as, etc., tu ne peux pas empêcher de grandir. Ça grandit, tu ne peux rien faire. Il faut juste t'adapter à la façon comment ça grandit. C'est ma mâche comme ça. Donc nous aussi, avec le temps, Baruch HaShem, on grandit. Tu ne peux pas rester au même niveau que tu étais il y a 15 ans. Tu as avancé, Baruch. Et c'est bien que tu as avancé. Donc, puisque tes besoins ont évolué, ton étude doit aussi évoluer. C'est...
Non, en France, ça arrive à faire de la décroissance.
Oui, d'accord. Parce qu'on empêche la croissance. Quand on empêche la croissance, il y a de la décroissance.
Mais la décroissance, tu ne peux pas l'empêcher.
Hein, quand tu empêches la croissance, quand tu ne les laisses pas grandir, quand tu leur mets des barrières, du coup, au lieu de pousser ici, ils passent par des racines en dessous et ils poussent de l'autre côté, au Panama. Comment? Exactement. L'arbre, tu l'empêches de pousser. Tu lui mets un mur de béton, mais il va pousser pas là.
Exactement. Seulement, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils poussent en Israël.
Hein? Oui, les arbres, ils poussent partout, en Israël. Partout.
Deux fois, on entend les trucs qui balancent sur les...
Voilà. Beilchot Talmud Torah. Ukma Amar Rabotenu Zichronam Livracha. On va terminer avec ça. Afilu, Afilu Perek Echad Shacharit Roulé. Alors voilà ce qu'on doit retenir. On n'a pas besoin. On ne demande pas ici de grands efforts. On ne demande pas ici d'efforts exceptionnels. On demande des efforts d'abord dans lesquels on s'investit, des efforts investis et des efforts récurrents. Même Perek Echad Shacharit, Perek Echad Arvit. La Gemara dans le traité de Menachot dit que même si une personne trouve du temps pour étudier seulement un chapitre le matin, un chapitre le soir, il est quitte. Il y a même des gens qui n'ont même pas le temps pour ça. Que pour eux, ils vont étudier une minute le matin, une minute. Pas de problème, fais ce que tu peux. Mais fais ce que tu fais, fais-le bien. Et quand on avance comme ça, on peut avancer. Et une fois, une histoire comme ça qui raconte, une personne, le fils d'un grand rabbin d'Israël, qui était venu à l'Yeshiva 770 à New York, chez le rabbi. Bon, mais malheureusement, ce fils n'était pas quelqu'un qui avait une... En yiddish, on appelle ça zitzfleisch. Ça veut dire que, littéralement, ça veut dire une peau pour s'asseoir. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui tient en place. Voilà, c'est quelqu'un qui ne tient pas en place. Ce n'est pas quelqu'un qui arrivait à rester en place une heure pour étudier. Il ne tient pas. Donc, du coup, toute la journée, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, du coup, malheureusement, ce n'est pas la nuit, en fait, c'est pas la journée, c'était la nuit. Il était au 770 et il travaillait dans le Hatzalah. Hatzalah, vous savez, c'est ceux qui sont Hatzalah et la Shmira. C'est ceux qui sont là pour tourner, faire des patrouilles, pour s'assurer que tout va bien, pour s'assurer que s'il n'y a pas des noirs cadavres, etc. Vous comprenez que c'est des gens qui doivent travailler leurs muscles. Donc bon, c'est pas des gens qui ont vraiment la tête dans la Torah, ils ont plutôt la tête dans les entraînements et les pompes, etc. Bon, celui-là, c'est quand même quelqu'un de grande, de bonne famille, mais bon, ça ne parlait pas. Et arrivé le jour de son anniversaire, à cette époque-là, quand on avait son anniversaire, on allait chez le rabbi en entrevue privée. Et bon, il essaye de réfléchir, dit qu'est-ce que je vais raconter au rabbi. Et vous savez, quand on est chez le rabbi, c'est un moment de vérité, quoi. Et là, il rentre chez le rabbi, il se met pratiquement à pleurer, il dit, écoutez, rabbi, je fais rien. Toutes mes nuits, je suis là en train de faire la shmira, et vous comprenez que quand je dors pas la nuit, alors du coup, je dors la journée, je prie à n'importe quelle heure, je fais n'importe quelle heure, je ne puis dire rien, je fais rien du tout, etc. Je suis un raté, bon, il n'en peut plus. Il n'en peut plus parce qu'il comprend qu'il est à côté de la plaque, il comprend qu'il y a un problème. C'est ce que lui dit le rabbi? Rabbi lui dit, écoute, je vais te demander quelque chose. Tu dis-moi si tu es capable de le faire. Pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes étudier? Roumage, tu aimes étudier? Il dit, oh, ça va. Voilà ce que tu vas faire. Tous les jours, tu vas rentrer au 770, à la Yeshiva, 5 minutes à la montre. À la montre. Tu vas étudier 5 minutes de Roumage. Maintenant, promets-moi que tu dépasses jamais les 5 minutes. À la montre. Tu mets un chronomètre. Et dès que la montre ou le truc qui sonne 5 minutes, tu t'arrêtes net. Si tu veux rajouter, il faut me demander. Voilà, comme ça je suis sûr que 5 minutes. Si 5 minutes, bon, ok Rabbi, pour 5 minutes, d'accord. Et maintenant c'est quelqu'un qui n'a pas ouvert un livre depuis belle lurette. 5 minutes. Il l'a fait. Et c'est, lui-même, c'est un témoignage qu'il a raconté. Il raconte, il dit, j'ai fait comme ça 5 minutes. 5 minutes, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et à chaque fois, au bout de 5 minutes, c'était en plein milieu d'un truc. Et je voulais continuer, mais j'ai dit au rabbi que j'arrête. Alors j'arrête, j'ai dit bon, je verrai demain. À chaque fois, je vais voir ce qu'il y a après. Il y a un moment, j'ai craqué, j'ai écrit au rabbi, j'ai dit écoutez, rabbi, est-ce que je peux rajouter plus que 5 minutes? Le rabbi a dit bien sûr, tu peux rajouter. Et c'était mon but pour te montrer que quand on fixe quelque chose, ça tient dans le temps. Et bien, au Hachem, ce juif aujourd'hui, bon, c'est pas devenu un Rosh Hashiva, c'est pas sa vocation. Mais c'est un juif, Shomer Torah Mitzvot, comme il faut, il a une famille, au Hachem. Dans la Torah, dans les mitzvot, voilà. Parce que ce qui compte, c'est d'étudier un peu le matin, un peu le soir, et de le faire de façon fixe. Quand on le fait de façon fixe, avec une abnégation, c'est quoi l'abnégation? L'abnégation, c'est de venir au cours, même quand c'est dur. C'est ça le côté halakha. Le côté halakha qu'il y a dans le cours de Tanya, c'est le fait que des fois, j'ai pas envie de venir, c'est galère, je dis, écoute, c'est quoi, je prends Dieu que je vienne, je vais revenir du séjour, je suis fatigué, j'ai les courriers à régler. En plus, je suis fatigué. En plus, il va nous parler encore de Tania. Je sais pas ce qu'il va nous raconter encore. On va voler dans les airs. Est-ce qu'on met? Bon, enfin, je verrai la semaine prochaine. Promis. En plus, j'écouterai l'enregistrement. Non. Je viens. C'est une abnégation, ça. Je me fais violence, presque. Je dis, je viens, c'est tout. Ça c'est Kavua. Mais ça c'est une abnégation. Dans ça, il y a un petit peu de ce qu'ont ressenti les patriarches. Quand les patriarches étaient Merkava, une abnégation, une soumission absolue à Kadosh Baruch Hu. Alors, ce qu'on expliquera la semaine prochaine, mais je m'arrête là pour aujourd'hui, on expliquera la semaine prochaine comment être comme ça, ça nous procure une joie extraordinaire. Quand tu arrives à avoir une telle abnégation, et on a tous ça en nous, une abnégation de faire un effort, même quand c'est pas gagné, je fais un effort, je viens, j'étudie, ce que j'ai prévu, je le fais, ça mène une très très grande simcha à une très très grande simcha de Ashrenu Matafrekenu, et ça, je laisse ça pour la semaine prochaine. Ça s'arrête là pour l'autre. Oh. Non.